Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Une tension inédite. Tels étaient les mots de Pap Ndiaye, le ministre français de l'Éducation nationale, à l'aube de la rentrée scolaire. Et près de deux semaines plus tard, eh bien, les difficultés se confirment, l'école va mal. Les raisons sont multiples. Les premières qui sont évoquées, c'est le manque de professeurs et le recours massif à des contractuels dont l'expérience fait défaut. Dès lors, les conditions pour permettre à l'école, eh bien, d'assurer sa mission sont-elles encore réunies? Ou bien faut-il changer le curseur pour l'adapter aux réalités actuelles? Quelles sont les priorités? Soyez les bienvenus dans le débat du jour.
RFI.
Et pour débattre ce soir, mes trois invités, à mes côtés en studio d'abord, Guylaine David, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du SNUIPPFSU, qui est le syndicat des enseignants du premier degré. Donc le premier degré, ça rassemble les écoles maternelles et les écoles élémentaires. Et nos deux autres invités sont en ligne. Philippe Mérieux, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur émérite en sciences de l'éducation à l'Université Lumière Lyon 2. Votre dernier ouvrage qui a été publié le 31 août, « Grandir en humanité, libre propos sur l'école et l'éducation », ouvrage coécrit avec Abdennour Bidar. Et puis notre troisième invité, Marie Durubella, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, professeur émérite à Sciences Po Paris, chercheuse à l'Institut de Recherche sur l'Éducation. Et puis votre livre que je vais citer, « L'école peut-elle sauver la démocratie ?» C'est au cœur de notre débat. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour d'abord pour commencer sur RFI. Alors l'école remplit-elle toujours sa mission? Voilà, donc c'est la question qu'on pose ce soir. Mais d'abord, pour commencer, quelle est selon vous la mission de l'école? C'est la première question que je poserai et que je poserai à Philippe Mérieux.
C'est bien la question, justement. Il me semble que, autant la mission de l'école a pu être à certains moments dans l'histoire de la République, au moment de Jules Ferry, peut-être au moment de Jean Zay, au moment de la création du Collège unique, relativement précise et consensuelle, autant il me semble qu'aujourd'hui, la mission de l'école n'est pas claire et que si on en dispose de définitions ici ou là, dans l'opinion publique, l'école est plutôt là pour rendre des services que pour accomplir une mission. Des services de gardiennage, des services d'orientation, des services d'inclusion. Mais la mission sociétale de l'école, elle est, à mon sens, insuffisamment définie. Et peut-être est-ce une raison, une des raisons parmi bien d'autres pour lesquelles le métier d'enseignant manque un peu d'attractivité.
Guylaine David, est-ce que vous partagez, c'est un constat pessimiste, finalement l'école est là pour rendre des services, nous dit Philippe Mérieux, et en écho, je vais citer un sondage qui dit que 91%, plus d'un Français sur deux, 51% des Français pour qui le système éducatif apparaît comme contribuant au déclin de la France. C'était un sondage Harris Interactive pour Challenge.
Alors souvent, les Français sont beaucoup plus durs avec l'école que les parents d'élèves. Les parents d'élèves qui, eux, sont... Quand on sonde les Français, on a une population assez large. Mais quand on sonde les parents d'élèves qui ont affaire à cette école, ils font quand même confiance à l'école, ils font confiance aux enseignants. Mais Philippe Mérieux l'a dit, c'est vrai qu'on a maintenant des missions qui sont très importantes à l'école et qui sont très, très larges. Et effectivement, l'école ne peut pas tout dans une société qui est en crise économique, crise sanitaire, comme on l'a pu le voir. Et on a des personnels qui sont mobilisés au quotidien pour faire réussir leurs élèves, d'abord, parce que c'est la mission première de l'enseignant, c'est de faire progresser ses élèves tout au long de l'année. Mais on a des difficultés pour le faire. Mais c'est effectivement peut-être un manque de reconnaissance sociale, c'est-à-dire que l'enseignant et l'école en général, il y a un manque de reconnaissance par l'opinion publique, peut-être.
Et cette reconnaissance, elle est de moins en moins reconnue, je dirais. En tout cas, les enseignants sont de moins en moins reconnus, selon vous, en France?
Oui, il y a un manque de reconnaissance du rôle de l'enseignant. Et on a, dans une société de plus en plus aussi individualiste, où on a... parfois des comportements qui sont très, très compliqués à gérer à l'école, des comportements de parents qui veulent que... Enfin, voilà, on ne peut pas tout faire à l'école et on n'a pas le rôle de tout régler. Et parfois, ça peut être compliqué.
C'est paradoxal parce que l'école se veut au cœur du projet républicain de la France.
Oui, c'est le rôle de l'école de réduire les inégalités scolaires, par exemple, hein, si on parle des inégalités scolaires, c'est bien le rôle de l'école d'être là au plus proche des élèves les plus en difficulté, scolairement et socialement, mais par Par ailleurs, on a effectivement ce manque de reconnaissance qui est lié aussi au manque de reconnaissance salariale. C'est-à-dire que peut-être que là aussi, les différents gouvernements successifs n'ont pas donné assez... Voilà, n'ont pas mis l'école au cœur des enjeux politiques, suffisamment au cœur des enjeux politiques pour pouvoir justement avoir cette reconnaissance dans la société.
Mais on précise qu'un enseignant stagiaire perçoit la première année 1400 euros net, 1800 euros après sa première année de titularisation. Marie Durubella, on ne vous a pas encore entendu dans ce débat du jour. Est-ce que vous partagez ces premiers constats établis par nos deux invités? Un manque de reconnaissance, donc on a parlé du salaire évidemment, une mission dévoyée finalement, nous disait également Philippe Mérieux.
Oui, moi je rejoindrai assez ce que disait Philippe Mérieux. Je pense que d'une certaine manière, l'école est victime de son succès, c'est-à-dire qu'on lui donne de plus en plus de choses à faire. Il y a toujours la fonction d'éducation, d'unifier une classe d'âge, inculquer des valeurs, elle est toujours proclamée, mais on compte de plus en plus sur l'école pour former au travail. Et donc, ça introduit progressivement l'idée, qui est une vérité d'ailleurs chez les parents, que l'école, elle doit servir à se placer, à avoir une bonne place, si possible, dans la société. Et ceci va développer au sein de l'école, ça va ronger d'une certaine manière l'école, parce que ça introduit de la concurrence dans les classes, de la sélection, de l'utilitarisme chez les élèves, on travaille pour ceux qui payent, et ça je pense qu'il y a une crise qui vient fondamentalement de là. Je pense que les problèmes, ce n'est pas du tout pour contredire Madame David, mais les problèmes des enseignants qui sont réels viennent quand même en second par rapport à cette crise qui est vraiment interne à l'école et qui est vraiment la contradiction entre cette mission d'éducation et de formation.
Mais comment expliquer cette situation? C'est quoi? Ce sont des raisons sociétales? C'est l'évolution de la société? C'est, pardon, mais la perspective d'un chômage toujours plus fort?
Qui explique
cette concurrence, cette compétition que vous évoquez?
Non, mais disons que le climat ambiant d'un chômage des jeunes, en ce moment, ça améliore peut-être un petit peu, elle participe de cette tension et de cette attitude des parents très tendue par rapport à la scolarité de leurs enfants, mais c'est aussi l'évolution des métiers, des professions. Quand tous les petits Français reprenaient la terre de leur père ou la petite boutique de leurs parents, il n'y avait pas de problème d'orientation professionnelle et de placement. Mais avec la diversification des métiers, on a confié à l'école ce rôle-là, et ce rôle, il est compliqué, il entraîne des tensions, des inégalités. Ça, c'est une évolution, on pourrait revenir là-dessus, mais ça voudrait dire qu'on forme uniquement sur le tas et que l'école ne fait plus que se concentrer sur la mission d'éducation. Pourquoi pas? Ce serait une utopie.
Philippe Mérieux, vous partagez ce constat?
Oui, très largement. Et je pense aussi que s'il y a aujourd'hui un certain flou sur les missions de l'école, c'est que le vocabulaire a été très largement dévoyé. Nous sortons de 5 années qui ont été placées sous le signe d'une loi qui s'intitulait la loi pour l'école de la confiance. Et ces 5 années ont été 5 années au cours desquelles jamais les enseignants n'ont été aussi caporalisés, d'une manière aussi autoritaire, jamais ils ont été aussi méprisés, en tout cas ils se sont sentis méprisés. Et puis on parle des valeurs, à l'école on parle en permanence des valeurs de la République, hein, les valeurs de la République qui sont affichées, la charte de la laïcité qui est affichée, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Mais au fond, comme Marie Durubella l'a dit, la fraternité à l'école, ce n'est pas tellement à l'ordre du jour. La coopération, l'entraide entre élèves, ce n'est pas au premier rang des préoccupations. Ce qui est au premier rang, c'est la concurrence. Et il y a quand même un écart absolument énorme entre, d'un côté, les intentions générales et généreuses qui sont celles de nos politiques et qui figurent en tête de toutes nos lois d'orientation, et puis la réalité du fonctionnement du système. Le fonctionnement du système est souvent à contre-courant par rapport à ces intentions générales et généreuses. Alors, comme Marie Durubella l'a dit, il y a une dimension sociétale globale, un individualisme, une recherche par chacun de l'intérêt de sa propre progéniture. Aujourd'hui, on est moins intéressé par les missions de l'école que par les notes de son propre enfant. Et chaque enfant n'est plus seulement une personne. Il y a encore 20-30 ans, l'exigence des parents, c'était que chaque enfant soit une personne. Aujourd'hui, l'exigence quand même très largement partagée, c'est que chaque enfant soit une exception. Et parce qu'il est une exception, il faut déroger pour lui aux règles communes. Et ça, c'est, je crois, lié à ce manque de perspective globale. On ne sait pas ce qu'on veut faire de l'école. Et moi, comme Marie Duru l'a dit, et peut-être est-ce une utopie, je pense qu'il faut aller vers une école de l'éducation, une école de l'éducation qui prenne en charge la globalité de l'enfant, qui ne fasse pas tout, qui se donne des objectifs précis en matière par exemple, de rapport aux médias, d'apprentissage de la pensée autonome, etc. En matière de coopération entre élèves aussi, qui se donnent quelques objectifs précis aussi en matière de programmes, qui aujourd'hui sont, à mon avis, trop pléthoriques et assez mal faits globalement, et qui soient cohérentes entre ces finalités affichées et puis les modalités du fonctionnement. Quand les élèves voient le mot égalité et qu'ils repèrent que dans les lycées professionnels, il n'y a pas de philosophie, ils se disent que vraiment, il y a deux types de bacheliers. Il y a ceux qui ont droit de réfléchir sur la vie, la mort, et puis ceux qui n'ont pas droit de réfléchir là-dessus, et que ça, c'est quand même une sacrée entorse à l'égalité républicaine.
Guylaine David, c'est quoi les priorités, justement, selon vous, pour restaurer la confiance? Alors ça, c'est un des mots qui a été utilisé par le président en cette rentrée scolaire, restaurer la confiance.
Oui, mais Philippe Mérieux a raison. C'est-à-dire que la loi qui a été produite par le précédent ministre, c'était la loi pour une école de la confiance. Et cette confiance, elle n'a pas existé pendant 5 ans. C'est vrai que les enseignants ont été pris dans un autoritarisme exacerbé avec des prescriptions régulières. Et puis, on parle des programmes, mais on parle aussi de ce sur quoi, là, on nous demande d'agir. C'est-à-dire qu'on a un resserrement sur les matières dites fondamentales, les français, les maths, sur des compétences qui sont très techniques, en fait, et qui ne sont pas... on n'est pas sur la construction du sens de ce que l'on fait, on est vraiment sur des compétences de base, et on a un resserrement sur ces compétences de base qui ne permettent pas à l'élève d'aborder toutes les autres compétences et tous les savoirs et savoir-faire pour avoir une culture commune qui soit émancipatrice, qui permette à l'enfant de comprendre le monde. Toutes ces choses-là, c'est mis de côté parce qu'on resserre là depuis 5 ans sur ces fondamentaux. Et puis on met les élèves dans une situation de concurrence, c'est vrai, et c'est le système qui le met. C'est-à-dire que là, on a des évaluations cette semaine, par exemple, sur les classes de CP-CE1 qui sont mises en place, donc qui vont être importantes pour les élèves, pour les familles, puisque les familles en attendent beaucoup, mais qui ne sont pas forcément utiles pour les enseignants, d'ailleurs, parce que les enseignants évaluent tout le temps leurs enfants. Et on voit bien qu'il y a une culture de cette évaluation. D'ailleurs, c'est le ministre qui parle de culture de l'évaluation lui-même. Il y a une culture de l'évaluation pour mettre de plus en plus en concurrence à la fois les élèves et puis les écoles entre elles, puisqu'il y a des résultats sur ces évaluations. Et on voit bien qu'il y a une difficulté à faire autre chose. Et on ne permet pas non plus aux enseignants d'exercer leur liberté pédagogique et de faire vraiment ce qu'ils souhaitent faire. Ces prescriptions qu'on a eues pendant 5 ans, c'est vrai que ça nous a pesé, ça a pressurisé la profession à tel point que certains enseignants ont une perte de sens de leur métier. C'est aussi ça le problème actuellement de l'école, parce qu'on demande des choses que on ne reconnaît pas, on n'a pas le sens de ce qu'on fait.
Alors c'est intéressant, Guylaine David, un porte-parole du SNU PPFSU, parce que vous nous parlez resserrement de la liberté pédagogique, vous l'avez dit. Or, Emmanuel Macron veut une grande réforme de l'école sur l'autonomie des établissements scolaires. Ça va à l'encontre, finalement, de ce resserrement. Je vais juste, pour nos auditeurs, citer cette réforme voulue par Emmanuel Macron. Elle doit, je cite, « permettre à toute la communauté éducative de bâtir un projet au niveau de l'établissement, autour des directeurs, avec les enseignants, les parents d'élèves, les partenaires associatifs aussi, qui sont en charge du périscolaire, les élus locaux, pour être au plus près des besoins des élèves. »
Mais ça, ce n'est pas la liberté pédagogique. Enfin, il ne faut pas confondre liberté pédagogique et autonomie des écoles et des établissements. Ce qui va se mettre en place là, dans la mise en place des grands débats, c'est qu'effectivement des écoles pourront faire un appel à projet. Enfin, c'est des appels à projet. En gros, on fera un projet, on va se concerter avec les parents d'élèves, les collectivités locales, et puis on va décider, alors qu'on a tous un projet d'école dans une école, on va décider de mettre en place un projet particulier, et puis on va avoir un jury qui va déterminer si on peut avoir des fonds pour mettre en place ces projets-là. Ce qui veut donc dire qu'il y aura des écoles qui vont avoir des projets qui vont être financés en particulier, et d'autres écoles qui n'auront pas de financement de projets. Et on va par là même mettre en concurrence les
écoles. Donc logique à deux vitesses.
Une logique à deux vitesses. Des écoles qui vont avoir des projets et qui vont être financées, et d'autres qui ne le seront pas. Alors qu'on est tous engagés au quotidien dans notre école, dans des projets que l'on mène avec les élèves. Et finalement, on a tous besoin de financement et plus de moyens. C'est vrai qu'on demande souvent plus de moyens pour l'école, mais on a besoin de moyens humains, de moyens financiers pour pouvoir justement faire vivre nos projets, des projets culturels, des projets scientifiques et qui demandent effectivement des moyens. Et là, on voit bien qu'on va avoir une école à deux vitesses avec une mise en concurrence des écoles entre elles, des écoles qui vont avoir ces financements et d'autres qui ne les auront pas.
Alors, vous parlez du manque de moyens. On a évoqué la question des salaires. Les enseignants sont parmi les plus mal payés en France, parmi les pays de l'OCDE. Il n'y a pas eu d'augmentation depuis 25 ans. Philippe Mériot, je sais que vous souhaitez réagir, mais j'aimerais entendre sur ce sujet que vous avez ouvert, Guylaine David, des inégalités finalement créées par cette réforme voulue sur l'autonomie. Et Marie Durubella, c'est un sujet que vous observez de près. Hein. Votre livre, « L'école peut-elle sauver la démocratie ?» vous y dénoncez l'accroissement des inégalités. Vous avez appelé la massification des systèmes scolaires. Comment est-ce que vous réagissez à ce que vient de dire Guylaine David ?
Par rapport à ce qui vient d'être dit sur l'autonomie, on a beaucoup de comparaisons internationales qui montrent que ça tend effectivement à accroître les inégalités entre les établissements et donc entre les élèves. Mais ce que je pourrais ajouter, c'est que laisser chaque enseignant faire comme il sent, eh ben c'est pareil. C'est-à-dire que si chaque enseignant fait ce qui bon lui semble sans qu'il y ait jamais de comparaison commune, par des évaluations, excusez-moi de ce gros mot, eh bien, on aura de même des inégalités, parce que toutes les études sur ce qui mesure, ce qu'apprennent les élèves avec les maîtres, montrent que d'un maître à l'autre, et notamment dans les zones les plus populaires, on va envoyer des débutants, des gens moins formés. Si on laisse les maîtres faire ce qu'ils sentent, ce qu'ils veulent, eh bien, ça accroîtra les inégalités. Donc moi, je défends plutôt des évaluations, alors pas tout le temps, pas obsessionnelles, etc. Mais si on n'a pas de mesures communes, il n'y a plus de système éducatif. Hein. Chacun fait comme il sent et les inégalités explosent. Et dans les écoles bien fréquentées, comme on dit, bien chic, on n'aura aucun problème. C'est dans les autres qu'on aura des problèmes. Et donc je crois qu'il faut se méfier de ces discours comme selon lesquels l'enseignant, c'est une profession libérale, il fait comme il sent, et c'est forcément bien. Et voilà. Donc je suis un peu voilà.
Mais Guylaine David, je pense pas qu'il soit question de remettre en cause les évaluations.
Absolument pas. L'évaluation elle est nécessaire pour le fonctionnement du cursus scolaire. Enfin elle est nécessaire. Et d'ailleurs il y a parfois des évaluations qui sont sur des panels d'élèves et qui permettent justement d'avoir des politiques éducatives et d'étudier les politiques éducatives. C'est nécessaire, ça c'est certain. Mais d'en faire systématiquement et qu'elles soient standardisées, ça met en concurrence. On a même des préparations, maintenant on a des livres qui sortent sur préparer les élèves aux évaluations de CPCE1. On les prépare dès la moyenne section et la grande section. C'est un risque. C'est ce qui s'est passé aussi en Angleterre sur le système d'évaluation où on préparait finalement les élèves au système. Et oui, la liberté pédagogique, ce n'est pas faire ce que l'on veut. Chacun ne doit pas faire ce qu'il veut dans sa classe. C'est pas ça la liberté pédagogique. C'est cadré par les programmes. Et heureusement, on a tous des programmes nationaux et on doit mettre en œuvre ces programmes nationaux. Mais c'est comment on arrive à chaque objectif qui est de l'ordre de la liberté pédagogique.
Philippe Mériot, sur ce risque d'une école à deux vitesses qu'on a évoqué, malgré ces réformes qui sont annoncées, qui veulent aller contre cet objectif-là, mais qui, a priori, rejoignent ce risque-là.
Oui, moi, je suis partisan d'une grande fermeté sur les finalités de l'école et d'une grande liberté laissée aux enseignants sur les modalités accompagnées d'une évaluation, mais une évaluation qui n'est pas faite pour mettre en concurrence, pour aider chacun. C'est vrai pour les élèves comme pour les équipes enseignantes, non pas à devenir meilleur que les autres, mais à devenir meilleur que soi-même. Voilà. Et je suis inquiet de ce que j'ai entendu quand le président de la République s'est exprimé dans son discours de la Sorbonne et qu'il a évoqué l'idée qu'il pourrait y avoir ici ou là, mais il n'en avait pas entendu parler, a-t-il dit, des projets d'école ou d'établissement. Toutes les écoles et tous les établissements font des projets. Essayons de revenir un tout petit peu en arrière. En 1981, Alain Savary crée les zones d'éducation prioritaire et il dit très clairement il faut donner plus et mieux à ceux qui ont moins, parce que ceux qui ont moins sont en difficulté et ils doivent avoir les moyens d'accéder eux aussi aux savoirs fondamentaux. Or, ce que nous avons aujourd'hui, c'est un changement radical de formule. On ne va pas donner plus et mieux à ceux qui ont moins. On va donner un peu plus et un peu mieux à ceux qui savent se vendre, à ceux qui savent faire des projets et répondre à des appels à projets, donc à ceux qui sont déjà d'une certaine manière favorisés. Et ça me paraît aller dans le sens de l'inégalité. Donc l'égalité, aujourd'hui l'égalité réelle, ce serait, comme l'a évoqué Marie Durubella, de ne pas nommer les jeunes et les contractuels face aux classes les plus difficiles et dans les établissements les plus compliqués. Ce serait de donner à ces établissements des moyens humains et financiers qui leur permettent de faire face aux difficultés qu'ils ont, parce que c'est eux qui sont...
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de moyens, tout simplement. Comment inciter, justement ? On a recours 3000 contractuels cette année pour pallier la pénurie de professeurs. On fait appel à eux parce que les autres professeurs ne veulent pas y aller dans ces établissements-là. Comment les inciter ?
Et ils ne veulent pas y aller parce que la mission n'est pas claire, parce qu'ils ne sont pas suffisamment soutenus, parce qu'ils ne sont pas suffisamment aidés, parce que la formation continue dans l'éducation nationale aujourd'hui est sinistrée et que... Si les professeurs qui démarrent en zone d'éducation prioritaire, en réseau d'éducation prioritaire aujourd'hui, avaient une décharge horaire qui leur permette de travailler sur leur pratique, d'être accompagnés par des chercheurs, si on mettait en place quelque chose qui dynamise et qui maintienne les gens sur place au lieu de les laisser partir dès qu'ils ont effectué leurs 2 années et que d'autres sont là pour les remplacer, je pense qu'on ferait un pas en avant très important. Mais je crains que ce ne soit pas la priorité aujourd'hui. Je crains malheureusement, comme l'a très bien montré mon collègue Jean-Paul Delahaye, qu'on donne de l'argent aux riches. Hein. Jean-Paul Delahaye explique qu'on donne globalement 40 euros par élève de zone d'éducation prioritaire pour l'aide à son travail personnel, ce qui est très au-dessous des 800 ou 900 euros que coûtent l'école, les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, l'argent du contribuable va aux gens qui sont dans les classes préparatoires ou dans les écoles et non pas aux élèves qui en auraient vraiment besoin et auxquels il faut apporter une aide significative si on veut éviter cette fracture sociale dont on parle tant depuis si longtemps.
Alors justement, fracture sociale, je vous renvoie, Marie Durubella, parce que c'est encore une fois un sujet qui vous tient à cœur. Je vais citer l'enquête PISA. La France, un des pays qui peine le plus à atténuer l'impact du milieu socio-économique sur les résultats scolaires. L'école faillit à sa mission, finalement, de mettre les élèves au même niveau.
Oui, alors, c'est un peu une énigme, cette affaire, parce que par rapport aux recommandations de l'OCDE, la France a beaucoup de bons points. On a beaucoup d'élèves qui sont scolarisés, vraiment, ils sont tous à 3 ans, on a un système de tronc commun, les budgets sont moyens et pas ridicules, sans pouvoir y revenir, mais par contre, ce qui est typique de la France, et ce qui explique une part des difficultés des élèves des milieux défavorisés, c'est que dans notre pays, il y a une très forte ségrégation, des élèves faibles sont regroupés dans les mêmes établissements. Et ça va produire de l'inégalité. Hein, il y a un jeune chercheur, Mathieu Hichou, qui a montré que si on essaie de comprendre pourquoi les élèves d'origine maghrébine ont un niveau si faible en mathématiques à l'entrée au collège, eh bien, il montre avec une étude empirique très solide que c'est avant tout parce qu'ils sont dans des établissements entre eux, des établissements faibles, sous-dotés, ces établissements dont parlait Philippe Mérieux. Donc, la ségrégation des élèves faibles. Et on a en France un noyau dur d'élèves faibles.
Et est-ce que c'est un phénomène qui... Pardon, je vous coupe, mais est-ce que c'est un phénomène qui s'amplifie ou pas? Parce que c'est révélateur de aussi, encore une fois, notre société, nos habitats sont aussi en fonction de ces quartiers-là.
Oui, alors on ne peut pas, sur les 10, 20 dernières années, voir d'évolution spectaculaire. Il y a eu, au contraire, certaines politiques de mixité sociale dans certaines régions, en particulier en région parisienne, qui ont un peu atténué l'absence de mixité sociale. Mais c'est un thème qu'il faudrait mettre en avant beaucoup plus fermement si on voulait lutter contre les inégalités sociales. Et les enseignants hésiteraient moins à aller dans les établissements les plus faibles s'ils étaient moins ségrégés, s'il y avait quand même d'autres élèves, si les publics étaient plus mélangés. Hein, la ségrégation, elle joue sur les élèves, mais elle joue aussi sur l'attractivité des établissements pour les enseignants.
L'école remplit-elle toujours sa mission? C'est notre débat ce soir. Alors, il y a plusieurs pistes de réflexion qui ont été annoncées en cette rentrée, avec une tension inédite, a dit Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, qui a annoncé le lancement pour l'automne d'un, je cite, grand travail de réappropriation de l'école, de ses enjeux pédagogiques à l'échelle de chaque établissement, afin que cette école redevienne un bien commun. Donc, ça vous inspire quoi, Guylaine David? Parce qu'on est en train de réfléchir sur l'école de demain et comment l'école peut-elle se réapproprier. Qu'est-ce que vous inspire justement ces pistes de réflexion de l'exécutif?
Mais la difficulté qu'on a aussi, c'est dans l'éducation, c'est que À chaque épisode d'élection présidentielle, à chaque changement de gouvernement, on a de nouvelles politiques qui sont mises en œuvre dans l'éducation nationale. Donc, il y a à chaque alternative, les politiques changent et on a une difficulté à s'adapter systématiquement à ces changements de politique. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas faire. L'éducation doit avoir lieu sur un temps long. On a besoin d'un temps long pour observer les choses. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas observer ce qui se passe sur une réforme, avoir du recul sur la réforme, parce qu'on en change tout de suite. Je prends un exemple. On avait mis, sous le précédent gouvernement, avant le gouvernement de Jean-Michel Blanquer, on avait mis en place des enseignants supplémentaires dans les classes. Ça s'appelait le plus de maîtres que de classe. Il y avait, dans certaines classes, deux enseignants plutôt qu'un enseignant, et on avait un double regard sur les élèves. On avait des choses qui étaient produites, qui étaient vraiment... il y avait un comité de suivi qui montrait qu'il y avait des choses qui se faisaient, qui étaient extraordinaires, et on faisait avancer les choses. Quand Jean-Michel Blanquer est arrivé au gouvernement, il a tout de suite modifié ce système-là. On a supprimé ce dispositif et on en a trouvé un autre. Et on est les champions dans l'éducation nationale de l'empilement des dispositifs. On a à chaque fois des dispositifs et on nous met en place des grands débats, des grenelles de l'éducation, des conférences sur l'éducation, systématiquement pour changer les choses. Et on ne nous laisse pas le temps, nous, dans nos écoles, de s'approprier les choses et de mettre en œuvre les choses. Il y a un manque de confiance, on le disait tout à l'heure, mais on est en tant que professeur expert de notre métier et bien souvent, on ne nous laisse pas être expert de ce métier, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire des choses et on a des injonctions. Ce qui fait que ça dénature, ça déqualifie un peu le métier et bien évidemment, ça pèse sur l'évolution de ces politiques et il faut vraiment qu'on soit sur un temps beaucoup plus long.
Et ça renvoie au court-termisme finalement très propre à la politique. Philippe Mérieux, on parle de la France, mais quelle situation à l'étranger? Je ne vais pas vous demander un panorama évidemment, mais est-ce que la situation est bien plus enviable chez nos voisins européens ou est-ce que finalement il y a des problématiques communes?
Non, il y a des problématiques communes, en particulier le déficit des enseignants. Je crois que nos sociétés peinent à mobiliser les jeunes générations pour les tâches éducatives. Et c'est une vraie question que nous devons nous poser. Comment se fait-il que nos sociétés, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour la Grande-Bretagne, c'est vrai pour l'Allemagne, et c'est même vrai pour les pays nordiques, peinent à mobiliser les jeunes pour ces métiers-là, comme ils peinent un peu à mobiliser pour tous les métiers d'accompagnement de l'humain? Je pense que nous avons à réfléchir sur le statut des métiers de l'humain, que ce soit les métiers de la santé, du travail social, de l'éducation, parce que ces métiers ont été en fait mis en coupe réglée là où on comptait sur à la fois le dévouement, mais aussi une compétence authentique, une forme de liberté. On est aujourd'hui, d'une certaine manière, comme en médecine, on est aux actes, on est à l'évaluation systématique et immédiate, on est dans une rupture de ce pacte de confiance entre ceux qui s'engagent dans ces métiers de l'humain et puis la société qui les mandate. Et je pense que c'est un vrai sujet de réflexion pour toutes nos démocraties. Est-ce que nous continuons à mettre ces métiers-là en coupe réglée, avec des référentiels qui imposent d'obéir strictement à des protocoles standardisés? Ou est-ce qu'on reconstruit une confiance dans ces domaines-là, qui sont des domaines essentiels pour le développement de notre société?
Est-ce que vous diriez, Philippe Mérieux, que la mission de l'école, finalement, alors que vous dénoncez le manque de moyens, elle est plus importante aujourd'hui qu'avant, avec peut-être une présence des parents qui est peut-être moins importante, avec des enjeux sociétaux qui sont différents, qui ont évolué?
Je pense que la mission de l'école est fondamentale. Au regard des médias, au regard de tout ce qui se déroule autour de nous, au regard des réseaux sociaux, permettre d'accéder à une pensée critique et penser par soi-même, c'était le grand mot des Lumières, c'est fondamental, c'est plus que jamais fondamental. Et dans une société très individualiste, coopérer, apprendre à s'entraider, c'est fondamental aussi. Mais cette mission-là, penser par soi-même et coopérer, qui est le cœur de la mission de l'école républicaine, je pense qu'elle est un peu oubliée au détriment des... J'allais dire des réformes de tuyauterie, des réformes qui ajoutent une heure par-ci, enlèvent une heure par-là, modifient tel dispositif, en nomment un autre. On oublie ce pourquoi on va, on oublie le cap, on est simplement à triturer et à changer en permanence le moteur sans se demander vraiment où va le navire.
Ce sera le mot de la fin. Il est juste, vous dénoncez en tout cas tous les trois, le manque d'ambition des politiques à l'égard de l'école pour que cette école remplisse toujours sa mission. Merci beaucoup Philippe Mérieux, professeur émérite en sciences de l'éducation à l'université Louis Lumière Lyon 2. Guylaine David, merci. Porte-parole du SNUIPP FSU, le syndicat des enseignants du premier degré. Marie Duru-Bella, merci. Sociologue, professeur émérite à Sciences Po Paris, chercheuse à l'Institut de recherche sur l'éducation. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat, Laurent Philippot à la réalisation, la documentation de RFI. Rendez-vous sur RFI.fr pour réécouter ce débat, le podcaster. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans 30 secondes, c'était RFI Soir.